Donc, elle a transformé la psychanalyse en art de guérir le sexe, en art de guérir la pensée. Et c'est ce qui se développe après elle, avec la psychanalyse anglaise et américaine, qui a permis d'entendre la psychose, qui a permis d'entendre l'autisme, et qui permet une vie de la psychanalyse aujourd'hui plus complexe que du temps de Freud. Donc, vous voyez que c'est possible à partir d'un certain rapport au corps, au maternel, et à cette double configuration féminine, côté langage, côté sensation, côté discible, côté indicible. Donc, l'Œdipe biface est toujours quelque chose à un arrière-plan dans la créativité féminine, mais chacune fait de cette Œdipe biface une création particulière. Hannah Arendt va intervenir sur le nazisme, le stalinisme, Melanie Klein va inventer la psychanalyse des enfants. Et pour Colette, je ne vous dirai pas encore, je vous dirai pendant les questions, parce que monsieur me fait signe que nous devons nous arrêter. Voilà. J'ai le temps de parler de Colette. Juste 2 minutes et on aura 5 minutes de questions. Alors, chez Colette, ce qui se passe, c'est justement un rapport au temps et à la vie extrêmement bouleversant. Nous avons eu hier une célébration à la BNF du 50e anniversaire de la mort de Colette. Et je regrettais que, parce que l'année est prise par la célébration de George Sand, ce que nous avons fait à la Bibliothèque nationale n'a pas eu suffisamment de retentissement. Mais c'était quand même un grand moment parce que nous avons pu voir combien l'œuvre de Colette ne se limite pas à une image de bourguignonne qui aime les chiens et les chats et qui parle roulant les airs, pire que mon accent à moi. Mais enfin, et c'est une femme qui a une sensibilité qu'elle arrive à traduire dans une langue française extraordinaire et dont je retiendrai, pour aller dans le sens de cet hymne à la vie, deux phrases. La première, elle passe pour une grande amoureuse. Et elle a eu 3 maris, elle était trahie par le premier, vous avez vu ça dans le film qui était fait par Trintignant récemment, qui insiste un peu trop, selon moi, sur la dépressivité et pas sur le côté renaissant de Colette, mais peu importe. Elle passe pour être une grande amoureuse et finalement, voilà ce qu'elle dit. L'amour, l'affaire la plus banale de l'existence, s'éloigne de moi. Alors là, qu'est-ce qui va lui arriver à cette pauvre femme qui n'a plus d'amour? La phrase suivante est « Sortie de là, tout est gai, varié, nombreux. » Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces expériences qui passaient par l'homosexualité, par un rapport qu'on appelle incestuel avec son beau-fils qui avait 30 ans de moins qu'elle, etc., etc., lui ont permis de penser que l'amour du couple n'est pas la panacée, qu'il peut y avoir, quand l'amour s'éloigne d'elle, des relations qui ne sont pas en deçà de l'amour, mais au-delà de l'amour, et qui sont, je le dis dans mon livre, une immersion dans l'univers, dans le cosmos, avec les plantes, avec les amis, avec les chats, avec les chiens, avec des hommes et des femmes, à travers une amitié, mais une amitié qui n'est pas abstraite, qui est sensorielle, qui est physique, qui est charnelle. Elle vit dans une sorte de mystique païenne, corps et âme, dans un transvasement dans les autres et dans le monde. C'est un amour total qui est au-delà de l'amour du couple. Et c'est ça qu'elle essaye d'écrire, et c'est avec cela qu'elle nous contamine. Et puis, cette dernière phrase qui va un peu dans le même sens, elle avait horreur de la mort, comme nous tous, mais elle le dit de manière très nette. Elle dit que le seul, ce qui va dans le sens de l'exaltation de la naissance, elle adore regarder les plantes, son temps et le temps de l'éclosion. C'est un mot qu'elle adore, sa mère était comme elle, des jardinières toutes les deux, et elle dit ceci, le grand événement, l'événement tragique, c'est la naissance, pas la mort qui n'est qu'une banale défaite. Et je trouve que ça ne pouvait être dit que justement par une femme qui est dans ce temps du renouvellement, du recommencement, qui la réconcilie au-delà de ses chagrins et de ses amours perdus, avec un rythme au-delà même des cycles menstruels qui est celui de l'éclosion, du recommencement, de l'éternel retour. Alors, en disant cela et en mentionnant l'éternel retour, c'est vous dire aussi, qui est un terme nietzschéen, c'est vous dire que cette dimension féminine qui domine chez les femmes est aussi quelque chose que l'homme possède, puisque en bon freudisme, nous pensons que chacun est un être bisexuel et que le féminin de l'homme possède ces capacités-là. Et quand un homme est créatif, il est en contact avec cette capacité féminine dont je vous parle maintenant au niveau du temps et au niveau de l'éclosion. Bon, beaucoup plus de choses, on essaiera de les dire avec vous et en répondant à vos questions. Merci en tout cas d'avoir été patient en m'écoutant. Silence, peut-être. On a tout compris ou il n'y a pas d'interrogation, oui.